VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 25 décembre 2019. Joyeux Noël à tous et à toutes. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Deuil national de 48 heures au Burkina Faso après la mort de 35 civils, dont de nombreuses femmes, dans une attaque djihadiste à Arbinda.
Les États-Unis envisagent une réduction considérable de leur présence militaire en Afrique de l'Ouest, voire un retrait complet de leurs troupes engagées dans la lutte antiterroriste, selon le New York Times.
Côte d'Ivoire, l'ex-chef de la rébellion et candidat à la présidentielle de 2020, Guillaume Soro, riposte en dénonçant hier un coup du pouvoir après son retour avorté la veille.
La justice béninoise a condamné le journaliste d'investigation Ignace Sou à 18 mois de ferme pour harcèlement.
Septième message Urbi et Orbi de Noël pour le pape François et messe de Noël devant des centaines de chrétiens à Bethléem.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, 35 civils, dont 31 femmes, ainsi que 7 militaires, ont été tués mardi dans une attaque djihadiste à Arbinda, dans le nord. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières qu'ait connue le Burkina, en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes, comme ses voisins, le Mali et le Niger. Un deuil national de 48 heures a été décrété, Jean-Roger Bion.
7 soldats, 35 civils et au moins 80 terroristes ont été tués au cours d'une attaque contre un détachement militaire à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, selon l'état-major des armées, dans un communiqué. Mardi matin, un nombre important de terroristes ont attaqué simultanément le détachement militaire et les populations civiles d'Arbinda, dans la province du Soum, selon le communiqué. Au cours de cette attaque d'une rare intensité qui a duré plusieurs heures, la détermination et l'audace des éléments du détachement composé des forces terrestres et de la gendarmerie ont permis de neutraliser au moins 80 terroristes, selon l'état-major. Côté ami, on déplore malheureusement 7 morts, dont 4 militaires et 3 gendarmes, et une vingtaine de blessés. Plusieurs victimes civiles ont également été dénombrées, indique l'armée. Une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité ont été également récupérées. Depuis début novembre, les forces de défense et de sécurité burkinabais ont annoncé avoir tué une centaine de djihadistes au cours de plusieurs opérations, des bilans impossibles à confirmer de sources indépendantes.
Le New York Times, citant des responsables américains, a dit hier que les États-Unis envisagent de réduire considérablement leur présence militaire en Afrique de l'Ouest, voire d'y retirer complètement leurs troupes engagées dans la lutte antiterroriste. Selon le grand quotidien américain, la question est pour l'heure discutée en interne au ministère de la Défense dans le cadre d'un redéploiement général des troupes américaines et aucune décision ne sera prise avant janvier. Interrogé par l'AFP sur ces informations, le Pentagone n'a pas immédiatement donné suite.
Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne et candidat à la présidentielle de 2020, a dénoncé mardi la volonté du pouvoir de l'empêcher de se présenter. Adepte des réseaux sociaux, M. Soro a donné dans une série de messages sur son compte Twitter sa version de son rocambolesque retour manqué lundi, fustigé l'arrestation de ses partisans et attaqué son ancien allié devenu adversaire, le président ivoirien Alassane Ouattara. Le jour même du retour prévu de M. Soro, la justice ivoirienne a émis contre lui un mandat d'arrêt international pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État.
Au Bénin, un journaliste d'investigation a été condamné hier à 18 mois de prison ferme et à 200 000 francs CFA d'amende pour des posts sur les réseaux sociaux. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ignace Sou a été condamné pour harcèlement par le biais de moyens de communication électronique, selon son avocate, Maître Prissa Ogoubi. Il était calme, mais n'avait pas l'air vraiment serein, a confié un autre journaliste béninois présent au tribunal. M. Sou avait été interpellé le 19 décembre à son domicile avant d'être placé en garde à vue. La veille de son arrestation, le journaliste avait posté sur ses pages Facebook et Twitter des propos attribués au procureur de la République. Selon ses publications, Mario Metonou intervenait lors d'une conférence organisée à Cotonou par l'Agence française de développement pour débattre des fake news. Les propos relayés semblaient assez critiques de l'attitude du pouvoir vis-à-vis de la liberté d'expression. La coupure d'Internet le jour du scrutin du 28 avril est un aveu de faiblesse des gouvernants, aurait notamment déclaré le procureur, qui n'a pas publié de démenti par la suite. Le journaliste a déjà fait l'objet d'une condamnation récente à une peine de prison avec sursis pour publication de fausses nouvelles après des révélations sur des comptes offshore et des sociétés écrans visant des hommes d'affaires béninois et français. La semaine dernière, la radio de l'homme d'affaires et opposant béninois en exil Sébastien Ajavan a été suspendue sur décision de l'autorité de régulation des médias.
Au Nigeria, le journaliste et opposant Omoyele Sowore a été libéré hier soir suite à l'ordre donné par le gouvernement à l'Agence nationale de renseignement de se conformer à plusieurs décisions de justice en ce sens. Les précisions de John Linden.
Joyeux Noël, je ne peux pas parler aux médias maintenant, je le ferai plus tard. Ce sont là les premières déclarations de l'opposant à sa sortie des locaux de la DSS à Abuja, manifestement heureux de pouvoir retrouver sa famille pour les fêtes. Le Nigeria était sous le feu des critiques ces dernières semaines après la nouvelle arrestation rocambolesque le 6 décembre d'Omoyele Sowore au lendemain de sa libération sous caution. Après plusieurs mois en détention dans les locaux de la DSS, Sowore, patron du journal en ligne Sahara Reporters, venait juste d'être libéré à la suite d'une décision de justice lançant un ultimatum pour qu'il comparaisse libre à son procès lors de sa réarrestation le 6 décembre. En septembre, un tribunal avait déjà ordonné sa libération, mais la DSS n'avait pas suivi la décision de justice. Candidat malheureux à la présidentielle de février et pourfendeur virulent du pouvoir, Sowore, 48 ans, avait été arrêté le 1er août pour avoir appelé à l'organisation d'une manifestation de masse baptisée « Révolution maintenant ». Il reste accusé de trahison, de blanchiment d'argent et de cyberharcèlement contre le chef de l'État.
Au Botswana, la justice a rejeté mardi le recours en annulation pour fraude des législatives du 23 octobre déposé par le principal parti d'opposition. Le recours portait sur près de la moitié des circonscriptions remportées par le parti au pouvoir, le BDP du président Mokswetsi Masisi, crédité de 38 sièges contre 15 pour l'UDC. En énonçant le verdict mardi, le juge a déclaré qu'on ne peut pas conclure que les gens ou les institutions qui auraient eu ces pratiques illégales et corrompues sont des agents électoraux du BDP. Ce parti dirige le Botswana depuis son accession à l'indépendance en 1966.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le pape François doit adresser ce mercredi au Vatican son traditionnel message Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde en latin à l'occasion de son 7e Noël dans ses fonctions et pour un vaste tour d'horizon des zones de conflit. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le souverain pontife qui a fêté le 17 décembre ses 83 ans prononcera son discours à la mi-journée devant des milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre de la cité du Vatican. Cette bénédiction Urbi et Orbi revient deux fois par an à Pâques et à Noël. À l'occasion de la précédente, le 21 avril, l'Argentin avait exprimé sa tristesse après les attentats au Sri Lanka qui avaient fait plus de 250 morts et près de 500 blessés en ce dimanche pascal, se déclarant proche de toutes les victimes d'une si cruelle violence. Le pape avait également lancé un appel à ce que les armes cessent d'ensanglanter la Libye, où la guerre civile connaissait un regain d'intensité, déploré que le peuple syrien soit victime d'un conflit qui perdure, et mentionné les enfants du Yémen épuisés par la faim et la guerre. Ces pays restent enlisés dans des conflits meurtriers et pourraient de nouveau être cités par le chef des 1,3 milliards de catholiques dans le monde. Lors de sa traditionnelle homélie de Noël mardi soir, François a mis l'accent sur l'amour inconditionnel et gratuit face à la logique marchande. Noël nous rappelle que Dieu continue d'aimer tout homme, même le pire, a-t-il souligné en célébrant la messe de la nuit de Noël dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Parallèlement à l'office papal de mardi, la traditionnelle messe de Noël a également été célébrée à Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ selon la tradition chrétienne, une ville située dans les territoires palestiniens.
Pékin, Tokyo et Séoul ont appelé mardi la Corée du Nord à s'abstenir de provocations dans un contexte tendu du programme nucléaire nord-coréen. Cet appel a été lancé au cours d'un sommet tripartite en Chine, Pyongyang a récemment procédé à une série d'essais sur sa base de fusées, de tirs de fusées de Soe, après une succession de tirs de projectiles les semaines précédentes, en dépit de plusieurs résolutions de l'ONU. Et le régime de Kim Jong-un a promis à Washington un cadeau de Noël. Peut-être que ce sera un cadeau gentil, peut-être un beau vase, plutôt qu'un essai de missile, a plaisanté le président Donald Trump, qui a refusé de dire ce que serait la réponse américaine à un tir de missile balistique à longue portée, qui serait le premier depuis 2017.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le groupe français Castel projette d'investir dans l'agriculture au Cameroun pour réduire les importations des matières premières entrant dans la fabrication de ses produits brassicoles. Son PDG, Pierre Castel, a déjà présenté au chef de l'État camerounais le plan d'investissement du projet selon la présidence de la République citée par l'agence Ecofine. D'après Castel, 30% de ses entrants sont actuellement acquis au Cameroun auprès de 6 000 exploitants agricoles qui lui fournissent 30 000 tonnes de sucre et 10 000 tonnes de maïs par an. La Côte d'Ivoire maintient à 700 francs par kilo le prix minimum garanti bord champ de café vert décortiqué et trié au titre de la campagne 2019-2020. C'est ce qu'a annoncé le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobenon Kwasi Adjoumani. D'après le Conseil du café et du cacao, le gouvernement ivoirien a apporté une subvention de 32 milliards de francs CFA pour maintenir le prix à 700 francs CFA, tout en ajoutant que le prix du café connaît une baisse depuis 3 ans à cause des productions de l'Indonésie et du Vietnam. Pour terminer, au Mali, les compagnies minières AngloGold Ashanti et AMGOLD ont conclu un accord avec Allied Gold Corporation pour lui céder leur part respective de 41% dans la mine d'or de Sadiola pour un montant total de 105 millions de dollars. La transaction est soumise à certaines approbations réglementaires, dont celle du gouvernement malien, propriétaire à 18% du projet.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Il est impossible d'organiser la CAN 2021 en été, selon Ahmad Ahmad.
Oui, le président de la Confédération africaine de football a indiqué qu'il n'est pas possible d'organiser la CAN 2021 au Cameroun dans la période fixée, initialement du 11 juin au 9 juillet. À mon avis, il n'est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en juin-juillet. C'est clair, nous devons donc prendre une décision sur la date, a affirmé Ahmad Ahmad. En plus des conditions météorologiques, la CAF est impactée par la décision de la FIFA, qui a déjà programmé la nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs en été. Au niveau calendaire, il ne reste donc plus que janvier et février, car il y aura les dates FIFA pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2022.
Un arbitre marocain suspendu à vie pour de grossières erreurs.
Hicham Tiazi, 44 ans, a été suspendu à vie pour avoir sifflé 4 pénalties discutables, dont 3 pour la même équipe lors d'un match de première division, selon la Fédération marocaine de football. L'instance nationale reproche à l'arbitre de grossières erreurs ayant affecté l'issue de la rencontre samedi entre l'Olympique de Kourougba et la Youssoufia de Bereshid. L'Olympique de Kourougba, bénéficiaire de 3 des pénalties, l'a emporté sur le score de 4 buts à 1.
Samba Camara vient ici en MLS.
Oui, le franco-malien est l'un des premiers mouvements du mercato hivernal qui s'ouvre dans quelques jours. Le défenseur central du Havre en Ligue 2 française quitte son club pour rejoindre les New England Revolution en MLS, ici donc aux États-Unis. Samba Camara, 27 ans, débutera la saison avec le club du Massachusetts qui reprend la compétition au début 2020. C'est la fin d'une aventure qui a débuté en 2016 avec le Havre. Cette saison, Samba Camara a disputé 14 matchs avec le club français en Ligue 2. En tout, il aura joué à 69 reprises sous les couleurs du club normand.
Mario Mandzukic signe à Al Duhail au Qatar.
Le club qatari a annoncé avoir recruté l'attaquant croate de 33 ans en manque de temps de jeu à la Juventus Turin. À Al Duhail, Mario Mandzukic retrouvera son ancien coéquipier de la Juventus Turin, Mehdi Benassia. Le vice-champion du monde compte 89 sélections avec la Croatie. Il était arrivé à la Juventus Turin en 2015. Il y a remporté 4 titres de champion d'Italie, 3 coupes d'Italie, une super coupe, mais a échoué à décrocher une seconde Ligue des champions après celle conquise en 2013 avec le Bayern Munich. Mandzukki a par le passé porté les couleurs de l'Atlético Madrid, du Bayern Munich justement, de Wolfsburg et du Dynamo Zagreb.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour consacrés ce matin à Noël dans des pays comme le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal, ainsi et aussi ici aux États-Unis. Au Bénin, pour commencer, la fête de Noël intervient dans un climat de morosité économique généré par la situation du pays, marqué par la fermeture des frontières nigérianes, la faiblesse du panier de la ménagère. Quelle est l'ambiance dans les rues de Cotonou? Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante au Bénin.
Depuis le début du mois de décembre, Cotonou s'active à accueillir la fête de Noël. Les marchés et autres boutiques parées aux couleurs du Père Noël n'attendent que les clients qui se font désirer. Dans les marchés temporaires apprêtés pour la vente des jouets, les commerçants sont inconsolables. Ils ne comprennent pas la mévente.
Comparativement aux années antérieures, cette année, ça ne coule pas comme cela se doit. Le pays traverse une crise. Les parents n'ont plus assez d'argent pour acheter les jouets. Et donc, ça agit sur nous. On est là et puis ça ne marche pas trop.
Oh bon, disons ici, nous ne voyons pas les clients, ils ne viennent pas, ils ne sortent pas, pas du tout. On s'en passe à d'autres disques parce qu'il n'y a pas d'argent, et pour ça on ne trouve pas les clients ici.
C'est le moment par excellence des dons de vivre et de jouer aux orphelinats et autres centres chargés de l'éducation des enfants démunis et abandonnés. Depuis 3 ans, la fondation Claudine Talon de la Première Dame du Bénin se bat pour apporter la joie aux enfants à l'approche de la fête. La directrice administrative de la fondation donne ici quelques précisions sur cette croisade sociale que mène la Fondation depuis quelques années en parcourant tout le pays, comme c'est le cas ici dans le nord du Bénin, à plus de 200 km de Cotonou. Evelyne Guedebé à Tonon.
Madame Talon a tenu quand même à faire cette tournée pour se rendre compte, pour toucher du doigt la réalité de ces différents centres. Cette phase n'est que la phase ludique. Il y a une petite fête qui est organisée avec les enfants. Il y a eu distribution de vivres et de produits d'hygiène et tout ça, moustiquaire. Et là, cette phase, c'est vraiment la distribution de jeux collectifs, de jeux de société pour permettre à ces enfants de continuer à jouer ensemble.
À l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, tenue par les religieuses, les bonnes sœurs profitent de la magie du temps actuel pour solliciter la bienveillance des bonnes volontés pour les enfants qui vivent dans des conditions assez précaires. Sœur Odile Falana est la responsable de ce centre.
Le centre nutritionnel et orphelinat Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus est confronté régulièrement à des difficultés de paiement des frais d'électricité, de manque d'eau et de dédommagement des nounous qui appuient les religieuses dans la prise en charge globale des enfants du centre.
Au Bénin, les fêtes de fin d'année sont des occasions propices pour se retrouver à l'église. Les chrétiens, qu'ils soient catholiques, célestes, évangéliques ou autres, croire en Dieu, prend tout son sens pendant ces jours-ci. Quelques-uns rencontrés au pied de la crèche livrent ici leurs impressions.
La naissance de Jésus représente une régénération, un espoir, un salut, parce que Jésus, c'est un don gratuit.
C'est dans la joie que nous accueillons la venue de Christ Jésus qui est là pour nous sauver, pour nous apporter tout dont nous avons besoin.
Le message, c'est le message de paix, de réconciliation, de joie et d'amour. Et nous avons le devoir, nous, en tant que chrétiens, de leur répandre ce message, la joie de vivre.
Il faut dire qu'à part l'engouement dans les églises pour la messe et les séances de prière, la fête de Noël au Bénin n'est pas pour autant célébrée avec faste. C'est le nouvel an qui reçoit toute l'attention des Béninois puisqu'il marque avant tout le passage vers une nouvelle année. Certains vont jusqu'à solliciter les compétences des spirituels et autres pour les différents sacrifices, prières et rituels pouvant les aider à rentrer dans la nouvelle année. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Burkina Faso, Noël est d'ordinaire célébré avec ferveur à Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du pays. Étant donné le contexte socio-économique et sécuritaire actuel, Tout porte à croire que c'est Noël à minima dans les familles, selon notre correspondant sur place, Alidou Ouedraogo.
Bobo Dioulasso, veille de Noël. Jadis bruyant et brillant des mille feux, la ville n'a pas cette allure festive cette fois-ci.
Non, ça n'y va pas. Noël, là, c'est très, très fort. L'année passée était bien.
Assis aux abords du marché central, devant son étal de jouets et d'articles de coquetterie, Issa Rabo raconte pourquoi une telle morosité à Noël.
Dans l'insécurité, il y a des gens qui ont peur de venir au marché. Ils croient qu'il y aura les djihadistes. Puis ils disent que les djihadistes aiment les gens. Les coins qu'il y a beaucoup de monde, donc les gens ont peur de sortir.
De l'autre côté, réservé aux fruits et légumes, Suzanne Ouattara fait ses achats pour le réveillon.
Actuellement, les condiments sont moins chers. On ne se plaint pas. C'est avant que c'était cher. Bon, ça va maintenant. C'est l'argent qui manque.
Autre lieu, même réalité, ici au quartier Saint-Étienne, Issiaka Sanou, dans son atelier, pédale sa machine à coudre. La tête baissée en regardant cette robe pour enfant qui prend forme, il explique que...
Cette année-là, sincèrement, le pays est vraiment chaud parce qu'on n'a pas trouvé assez de clients. L'année passée, même, on dormait ici à l'atelier. Mais cette année-là, à partir de 22h seulement, on rentre. Voilà.
Noël à minima, ce sera comme ça chez David Sanfo. Ce père de famille polygame de 50 ans en chômage ne compte pas festoyer avec ses dernières économies. Nous l'avons trouvé dans son salon au secteur 4 à suivre le foot à la télé.
Vu la situation sécuritaire, on n'a pas de touristes parce que moi je suis dans le domaine touristique. Il n'y a pas de touristes et la situation est vraiment difficile. On ne peut pas prendre tous les moyens pour mettre pour une seule journée et puis demain s'il y a un enfant ou une femme qui tombe malade, comment on va faire? Donc on est obligé vraiment de faire sobrement.
Même les maquis qui habituellement marche fort ne sont pas en reste. Yves Sanou est caissier de la boîte de nuit Le New York.
Il n'y a pas trop d'affluence comme ça. C'est tout cette année, il n'y a pas marché où. Ça va préparer comme on peut. Les décorations, les jeux de lumière, rien fait pour l'instant.
Crise économique ou sécuritaire, une chose est sûre, cette fois-ci, Noël n'est pas comme avant à Bobo Dioulasso. Alidou Ouedraogo pour VOA Afrique.
Au Sénégal, pays réputé pour sa tolérance religieuse avec ses 95% de musulmans, on baigne aussi dans la ferveur de Noël. Si beaucoup de membres de cette communauté religieuse fêtent Noël en parfaite harmonie avec les chrétiens, d'autres sont moins enclins à le faire et c'est souvent les enfants qui en pâtissent, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Je suis triste parce que je ne pourrai plus avoir des cadeaux de Noël. Peut-être qu'on n'a pas des parents qui ont les moyens. Peut-être que nos parents ne veulent pas nous acheter des cadeaux.
À l'instar de Dama Cissé, beaucoup d'enfants ne reçoivent pas de cadeaux de Noël et ils ne cachent pas leur tristesse. Une situation déplorable d'après Amina Ndiaye. Cette jeune dame estime qu'il est essentiel de faire plaisir aux enfants durant ce genre de fête.
Ça fait un peu mal parce que vous voyez, l'enfant se frustre rapidement. Il peut sortir, ses amis lui disent que voilà, moi j'ai reçu ça. Donc ça peut facilement les frustrer et voilà, c'est un peu un déséquilibre. Bon, je juge pas peut-être les parents qui le font pas, parce que peut-être c'est par principe ou bien par la lecture différente qu'ils ont des choses. Le petit truc qu'ils achètent, peut-être un petit ballon, ça vaut un sourire et ce sourire-là, pas de prix.
Ibrahim Diop est d'accord qu'il faut acheter des cadeaux pour faire plaisir aux enfants. Mais pour ce père de famille, cela ne doit pas nécessairement être rattaché à la fête de Noël.
C'est pas une fête musulmane, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais faire des cadeaux à ses enfants, je pense que le bon musulman doit le faire en dehors de Noël, régulièrement, pour au moins encourager ses enfants dans l'école, dans les daras, ainsi de suite. Je ne trouve aucun inconvénient, mais associer le fait de donner des cadeaux aux enfants musulmans à une fête chrétienne, c'est ce que je déplore et que je ne pense pas que les musulmans associent leur geste à la fête. Non, je ne pense pas.
De son côté, Serigne Fallou Lumbaye juge que fêter Noël est devenu un impératif pour tout le monde à cause des règles de bon voisinage qui régissent les cordiales relations entre musulmans et chrétiens au Sénégal.
Autant ça ne faisait pas partie de nous, mais avec l'évolution, donc on ne peut pas le faire parce qu'on a des enfants, on a des voisins catholiques, donc on est obligé de le faire pour satisfaire nos enfants. Mais ça ne faisait pas partie de notre culture parce qu'on n'est pas né chrétien pour fêter Noël, mais maintenant on est obligé parce qu'on est très rapproché de nos frères catholiques.
Exemple de tolérance par le dialogue permanent avec les chrétiens, les musulmans sénégalais sont pourtant partagés à l'heure de fêter Noël. Certains estiment que la célébrer n'est pas forcément obligatoire, tout comme donner des cadeaux aux enfants. D'autres pensent qu'il est important de faire plaisir aux enfants en fêtant Noël au nom du vivre ensemble, qui est le socle des relations entre musulmans et chrétiens du Sénégal. À Dakar, Serina Abagé pour VOA Afrique.
Et si aux États-Unis, les vedettes de la télévision et les autorités du comté de Los Angeles ont lancé une initiative pour égayer la Noël des nombreux SDF de la ville. Reportage de Mike O'Sullivan, repris ici par Timothée Donangmaï.
Ils sont près de 59 100 domiciles fixes à avoir baissé leurs tentes et abris de fortune le long des rues du secteur dit Skid Row de Los Angeles. Pour ces démunis et les autres habitants du quartier, un repas chaud servi par des célébrités de Hollywood et des leaders locaux constitue un cadeau bien apprécié en cette période de froid hivernal. Nathan Pitiakorn, un ancien SDF, a trouvé un abri au Los Angeles Mission, l'ONG locale qui organise cette fête annuelle.
C'est difficile, vous savez. Vivre dans la rue, sous une tente, sans jamais savoir où utiliser les toilettes.
La célébration annuelle de Noël est une tradition bien établie à Skid Row, quartier abritant de nombreux SDF de Los Angeles, mais aussi des familles pauvres.
L'aide est disponible, mais pas suffisante. Il faudra commencer par fournir des logements, non par centaines, mais par milliers.
La situation ne cesse d'empirer. Le nombre de SDF du comté de Los Angeles s'est accru de 12% au cours de l'année écoulée. Et ce n'est pas faute de tentatives de solution, souligne Herb Smith de l'ONG Los Angeles Mission.
Tout le monde essaie, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'abri, pas assez de logements à coût modéré.
La petite fête de Noël du Los Angeles Mission apporte quelques heures d'un répit bien apprécié par les SDF, sachant que le rude froid hivernal sévit dehors.
Avec vous, cette semaine, Washington Forum revient sur les grands sujets qui ont fait l'actualité durant l'année 2019 en Afrique. De la recrudescence des attaques djihadistes dans le Sahel à l'élection de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, en passant par le débat sur le troisième mandat qui fait rage dans certains pays ou encore la réforme du franc CFA. Quel événement vous a le plus marqué durant cette année 2019 et pourquoi? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-nous ce jeudi à 19h, temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Calvin Farr. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Et Dressa Sloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.